Place Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes. Chaque dimanche, débat autour des sujets qui ont ou vont marquer l'actualité économique et sociale, avec évidemment ce soir la perspective du nouveau gouvernement et le travail qui l'attend dans ce contexte de crise violente. Alors, quelle feuille de route économique et sociale pour la prochaine équipe autour de Jean Castex? Nous en parlons ce soir avec Jean-Hervé Laurenzi, président du Cercle des économistes, et Patrick Artus, membre du Cercle et directeur de la recherche chez Natixis. Bonsoir messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans les studios de France Info. Alors la lourde actualité politique du week-end n'a pas cassé le rythme des 20e rencontres économiques qui se tenaient depuis vendredi à la Maison de la Radio à Paris avec le soutien de Radio France. Trois jours de débats intenses autour de ce thème, agir face au dérèglement du monde. On va s'en sortir, la dernière partie de la phrase, et on l'aura noté, très importante. Alors, une quinzaine de propositions en ont émergé, nous allons voir cela en détail dans un instant. Auparavant, Jean-Hervé Laurenzi, quel bilan général tirez-vous de ces rencontres économiques? Vous avez quand même réussi l'exploit de réunir 300 intervenants du monde entier et de faire discuter syndicats, patrons, étudiants et de nombreux autres acteurs, finalement.
Non, ça a été en toute... C'est-à-dire réalisme absolument exceptionnel par la diversité des gens qui sont venus. On avait à la fois tout le monde politique, le monde syndical, le monde économique, académique. On a vraiment discuté de ce problème si compliqué de savoir comment on sort de cette crise dans des conditions incroyables. Puis ça a été exceptionnel par, j'allais dire, l'engagement des gens, parce qu'au fond, d'habitude on est à Aix, il fait beau, on est pris un peu par l'ambiance, alors que là l'ambiance...
Aix-en-Provence, c'était Aix-en-Seine.
Et l'ambiance de la Maison de la Radio était vachement sympa, mais moins... festive. Et donc, le niveau des débats était top. Et ça nous a permis, comme vous l'avez indiqué, avec tous mes camarades, et notamment avec Patrick Artus, de préparer 15 propositions qui pourraient être considérées comme une sorte de véritable feuille de route pour un gouvernement bien intentionné.
C'est-à-dire que ces 15 propositions, que vous allez d'ailleurs dévoiler en direct sur le site internet de France Info dans un petit quart d'heure, ce sera en live, en streaming sur franceinfo.fr. Concrètement, ces mesures, Patrick Artus, on sait, il y a la crise. Donc pendant 3 jours, là, vous avez parlé de la reprise, de la manière dont il faut accompagner cette reprise ?
Un peu à plus long terme, on se dit, qu'est-ce qui fait qu'après une récession aussi violente, qui est due à un choc auquel on ne peut rien, c'est une récession très particulière, qu'est-ce qui fait que d'habitude, on perd durablement de la croissance et des emplois ? Et donc, toute notre réflexion est de dire, essayons de mettre en place un programme de politique économique, c'est au-delà d'un plan de relance, c'est un plan vraiment structurel sur l'économie, qui évite que cette récession nous pénalise pendant les 10 prochaines années. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 4 objectifs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut tout regrouper.
L'armature générale.
Oui, sur ces 4 objectifs. 1, il faut perdre aussi peu que possible de capital, de capital des entreprises, ça veut dire éviter des faillites. Ça veut dire favoriser les investissements à long terme. Deuxièmement, il faut perdre aussi peu que possible de capital humain. C'est très compliqué dans cette crise-ci, puisque vous avez bien remarqué que les secteurs qui vont embaucher, ce ne sont pas les secteurs qui détruisent des emplois. Donc il y a un problème de reconversion qui est considérable, qui risque de submerger nos systèmes de formation. Troisièmement, il ne faut pas fabriquer ce qu'on appelle des zombies, c'est-à-dire des entreprises qui ne survivent que grâce à l'endettement et aux subventions.
Des coquilles vides, en quelque sorte.
Oui, mais des entreprises qui vont errer pendant des années sans croissance, sans investir, sans innovation.
Il y en a de plus en plus.
Et il y en a aujourd'hui, avant cette crise, 14% de nos entreprises sont des zombies. Il faudrait éviter que ce soit 25% après la crise. Et puis quatrièmement, il faut boucher les trous de la protection sociale. On s'est aperçu que la protection sociale était trouée. Donc il y a des personnes qui ont perdu tous leurs revenus, des artisans, des indépendants, des intermittents. Et donc il faut étendre le filet de protection sociale à ceux qui ne sont pas couverts aujourd'hui.
Donc ça, ce sont les 4 points armature de ces 15 propositions, donc qui vont être dévoilées dans quelques instants. Allez, Bon, je ne chasse pas le scoop, mais Jean-Hervé Lorenzi, concrètement, ces mesures vont tourner autour de quoi? La réforme des retraites, la réduction des déficits publics, bien sûr, la santé, l'hôpital public, la lutte des inégalités, la jeunesse aussi, très important.
Alors, vous les avez pris exactement dans le sens inverse, ce qu'il fallait prendre.
Donc, normal. Ça prouve que je ne suis pas au courant, je n'ai pas d'informations préalables.
Vous prouvez. Si on reprend les quatre points, il faut y rajouter un dernier aspect. Il faut aussi que le pays, notre pays, qu'on remobilise les gens, que les gens aient envie de retravailler. Donc, il faut trouver de la confiance. Notre point de vue, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue beaucoup plus riche que celui qu'on a, parce qu'on ne va pas faire relancer ce pays uniquement par quelques... du top-down, ce qu'on appelle uniquement des décisions de nature politique. Ça ne se fera pas comme ça. N'oubliez pas que tout au long de ces trois jours, nous avons eu beaucoup d'acteurs qui étaient des acteurs sociaux de la société civile. Et il va bien falloir à un moment que, sur tous les sujets que Patrick a évoqués, ce soit débattu, parce qu'il faut trouver des compromis.
Oui.
Et c'est ça qui compte. Vous en voulez une. Évidemment, le numéro un, c'est... chacun d'entre nous, d'ailleurs, a des numéros un. Donc c'est ça qui va, je pense, à pas dans l'opération. Mais moi, pour moi, le numéro un, je pense que c'est Patrick aussi, c'est évidemment la jeunesse. Il va y avoir 600 000 jeunes.
Mais une fois qu'on a dit ça, 600 000...
Ah, attendez. Vous demandez un scoop, vous l'aurez. Les 600 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, et nous ferons une proposition qui revient à dire on ne va pas se retrouver avec un pays qui supprime, raye de la carte du marché de l'emploi toute une classe d'âge.
Bon, on verra comment vous faites concrètement et ce que vous proposez au nouveau Premier ministre et à son gouvernement, qui sera annoncé d'ailleurs, l'Élysée l'a confirmé, demain dans la journée. Alors, il y a l'importante réforme des retraites. Vous avez d'ailleurs organisé un débat à la Maison de la Radio aux Rencontres économiques ce week-end entre Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron des patrons, le président du MEDEF, et Laurent Berger, le patron de la CFDT. Vous avez parlé des retraites. Beaucoup appellent à un report de cette importante réforme. Quel est le point de vue du cercle des économistes sur cette question?
Je ne sais pas si un point de vue du cercle des économistes. Non, nous, on est assez prudents. On comprend bien que conjoncturellement, ce n'est peut-être pas le moment de repousser l'âge du départ à la retraite, par exemple, quand il y a un problème de chômage des jeunes. On dit simplement la chose suivante. On va avoir énormément de dépenses publiques intelligentes à faire dans ce pays pour les relocalisations, pour la transition énergétique, pour la formation. Est-ce qu'on peut continuer à dépenser 4 points de PIB de plus que tous les autres pays pour le système de retraite? Ou est-ce qu'il faut réfléchir à réinjecter l'argent public à des endroits où c'est plus efficace? Donc ouvrons le débat, simplement. On n'a pas de solution.
Donc on ne fait pas la réforme et on continue à discuter,
oui, je crois qu'il faut en parler. La grande difficulté de la réforme des retraites aussi, c'est le fait qu'elle fait énormément de gagnants et énormément de perdants dans son format actuel. Et ça, c'est très, très compliqué
dans
à gérer.
Dans le contexte actuel, c'est très, très difficile. Donc faut mettre.
Allez, on lève un peu le pied. Vous avez posé une question sur.
On lève le pied sur la réforme des retraites.
C'est pas nous qui allons le poser. Le président a évoqué le fait qu'il allait dialoguer avec. Mais pour un dialogue, il vous a pas échappé qu'il fallait deux parties. Oui. Et il semble aujourd'hui, tout ça peut changer, mais que les parties, la partie syndicale n'accepte pas, ne soit pas d'accord pour en discuter. Mmh. En disant, il y a quelques urgences. Moi, je suis mille fois d'accord avec ce que dit Patrick. C'est un vrai sujet. Évidemment qu'il faut le traiter, mais il faut avoir un sens du timing. Tout en économie, politique économique, c'est un art d'exécution. Il faut avoir un concept bien précis.
On écrit une histoire, finalement, et on essaie de la réaliser.
Exactement.
Voilà, c'est le propre du politique et c'est le propre aussi de la politique économique finalement. Nous nous arrêtons là. Alors attention pour la première partie des débats de l'écho sur France Info. Vous restez avec nous, bien sûr, je vous rappelle, nous sommes en train de dresser la feuille de route pour le prochain gouvernement qui sera nommé demain. Nous le faisons sur France Info ce soir avec nos deux invités, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Patrick Artus du Cercle des économistes, également directeur de la recherche chez Natixis. On se retrouve dans quelques instants.
Après le fil info de 17h50, Diane Ferchit.
80 migrants à bord de l'Ocean Viking seront placés en quarantaine sur un autre bateau à leur arrivée en Sicile, précise le ministère de l'Intérieur italien. Le bateau d'SOS Méditerranée s'est déclaré en état d'urgence vendredi après plusieurs bagarres à bord et 6 tentatives de suicide chez les migrants rescapés. L'Ocean Viking espère pouvoir rallier le port autorisé d'ici demain matin. D'après les informations du service politique de France Info, Emmanuel Macron envisage de s'exprimer pour le 14 juillet, une tradition à laquelle il avait pourtant renoncé. J'attends de l'apaisement et que le gouvernement ne remette pas du sel sur la plaie avec avec la réforme des retraites. Réagit sur France Info Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Un homme en garde à vue, le conducteur qui a mortellement heurté une jeune gendarme lors d'un contrôle routier près d'Agen dans le Lot-et-Garonne hier soir. Il cherchait à échapper aux forces de l'ordre. Le Premier ministre Jean Castex a fait part sur Twitter de sa grande tristesse. Contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, une marche d'ici une dizaine de minutes à Ajaccio. Ici, nous avons plus de mal à en parler parce qu'il y a une certaine fierté à être corse, regrette sur France Info la présidente de l'association Femmes et Sœurs. La crainte d'une nouvelle pandémie de Covid-19 en Angleterre après la réouverture des pubs la nuit dernière, elle a entraîné de nombreux débordements dans le pays. Le Premier ministre Boris Johnson avait pourtant rappelé qu'il était vital que tout le monde respecte les règles de distanciation sociale.
France Info. Et tout est plus clair.
Les débats de l'écho avec Cardif, groupe BNP Paribas. Choisissez l'assurance de prêt immobilier qui vous correspond.
Deuxième partie des débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes et nos deux invités, Jean-Hervé Lorenzi, professeur, président du Cercle des économistes, Patrick Artus, membre du Cercle et directeur de la recherche Genatixis. Alors nous parlons de ce que pourrait être finalement la feuille de route économique et sociale du nouveau gouvernement qui sera annoncé demain lundi. Alors quel programme économique et social pour la future équipe de Jean Castex? Le plan de relance doit être annoncé dans le courant de l'été par le président de la République. Jean-Hervé Lorenzi, il faut poursuivre les aides aux entreprises, les aides pour le chômage partiel. Il faut prolonger tout ça ou arrêter?
Non, mais on ne peut pas, de toute façon, je vais dire, arrêter. Tout le problème, c'est un problème de timing. Il y a bien un moment où ça s'arrêtera, c'est évident. Mais il faut trouver le moment en essayant de limiter, je reprends la formule de Patrick tout à l'heure, éviter de perdre trop de capital, éviter de perdre trop de capital humain, capital physique, capital humain. Donc c'est quand même évidemment le critère qu'il faut prendre. Juste un point, moi ma crainte, puisque on a aussi chacun ses points de vue, c'est qu'il y ait une confusion entre, j'allais dire, la phase de transition qui est une phase en réalité où on doit répondre à ce genre de questions, quand est-ce qu'on arrête d'aider, et puis un discours plus général sur l'évolution de la société française dans les 10 prochaines années, avec tous les sujets qu'il y a à traiter, aussi bien l'écologie, le climat, les inégalités, la qualification, tout ce qui de près ou de loin pose problème. Et moi, ma peur, c'est que sur un plan de méthode, c'est que ce plan de relance soit au fond un mélange entre des propositions de nature extrêmement différentes, oui, et de timing très différent. Et nous sommes d'ailleurs, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, très fondés sur l'idée qu'il fallait avoir une perspective de long terme, tout en étant respectueux et lucide sur le très court terme.
Alors on l'a bien compris, à travers l'avenir de la jeunesse et 600 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi tout à fait saturés et déprimés à partir de septembre-octobre, il y a aussi l'innovation, je crois, dans vos mesures, on verra cela tout à l'heure. Les déficits publics, Patrick Artus, parce que tout ça va coûter de l'argent, évidemment. Enfin, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Est-ce que la France doit et peut continuer à creuser le déficit public et la dette qui va avec?
Tout ça dépend beaucoup de la Banque Centrale Européenne. Tant que la Banque Centrale Européenne choisit de continuer à acheter les dettes publiques que nous émettons, il n'y a pas de problème de déficit public. Le plus probable... C'est évident qu'on aimerait mieux un peu d'engagement de la part de la BCE, mais le plus probable, c'est que la BCE va continuer cette politique d'achat des dettes publiques émises par les États à cause du Covid aussi longtemps que ce sera nécessaire. Donc ça veut dire que je pense que sur toute l'année 2021 et peut-être même en 2022, la BCE va continuer à le faire. Ça peut mettre les États un peu en porte-à-faux parce qu'ils ne le savent pas précisément. La BCE ne dit pas, messieurs, jusque fin 2022, je continue, et en 2023, j'arrête. Elle laisse planer un peu d'incertitude.
Donc ça peut freiner, en fait,
oui,
les États.
Oui, alors des mesures parfois surprenantes. Par exemple, le gouvernement français annonce qu'il va compartimenter ce qu'il appelle la dette Covid et l'amortir en maintenant un impôt qui s'appelle la CRDS. C'est très bizarre, parce que si cette dette reste dans le bilan de la Banque Centrale Européenne, enfin, de facto de la Banque de France, elle n'a pas à être remboursée. Donc on voit qu'il y a une incertitude. Bon, cela, fondamentalement, moi, je suis persuadé que le nouveau fonctionnement de la politique économique en Europe, c'est que la Banque Centrale Européenne donne les mains libres aux États dans les récessions pour faire ce qui est nécessaire. Donc je ne crois pas qu'il y ait de problème de financement.
Coffre ouvert aussi.
Ça veut dire qu'on peut faire le déficit public qui est nécessaire tant qu'on est en situation de crise et pas après durablement. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'urgence dans la réduction des déficits publics aujourd'hui.
Donc Jean-Hervé Lorenzi, dans la suite de ce que vient de dire Patrick Artus, est-ce qu'il faut inciter l'État à être frugal ou pas?
Non, je veux dire, c'est un timing qui est évoqué. Tant qu'on est dans une crise clairement définie, tout le monde a en tête l'idée qu'on va s'en sortir, en gros, courant 22, c'est-à-dire dans deux ans, peut-être un peu plus, 2 ans et demi. Pendant cette période-là, le raisonnement de Patrick est parfait. Un jour ou l'autre, il faudra mettre un peu d'ordre dans notre organisation. Mais surtout, ce qui est apparu dans cette affaire, c'est que on a quand même des failles dans le fonctionnement de l'appareil public, et ces failles-là, on les voit un peu partout, il faut les corriger. Donc c'est plus profondément la réorganisation de notre service public que l'idée que ça coûte telle ou telle somme, qui n'est pas l'urgence première.
Mais Patrick Artus, cette dette, on va la rembourser ou pas?
Si la BCE...
Est-ce qu'il faut la rembourser?
Disons la Banque de France, puisque, enfin, appelons ça la BCE ou la Banque de France, comme vous voulez, la garde sur son bilan. Elle peut même arrêter d'acheter de nouvelles dettes, mais si la dette qu'elle a achetée aujourd'hui et qui finance nos déficits liés au Covid reste sur le bilan de la Banque de France, cette dette n'aura jamais à être remboursée. Pour qu'elle ait à être remboursée, il faudrait que la Banque de France la revende, la remette sur les marchés. Tant qu'elle la garde dans son bilan, cette dette n'a pas à être remboursée. De fait, elle est annulée.
Bah on doit le faire alors, si c'est aussi facile. Pourquoi ne le fait-on pas?
À nouveau, parce que nous n'avons pas d'engagement de la Banque de France à la garder jusqu'à la fin des temps sur son bilan. La Banque de France est engagée à la garder jusqu'à la fin de 2022 sur son bilan. Après, on ne sait pas. Mais ce que dit Jean-Hervé, notre sujet n'est pas de réduire les dépenses publiques. Notre sujet est d'essayer de comprendre pourquoi, dans certains domaines comme la santé ou l'éducation, en dépensant plus que les autres, on est moins efficace que les autres. C'est ça, notre sujet.
Alors, il y a l'Europe aussi, on terminera là-dessus d'ailleurs. L'Europe qui occupera, je crois, une grande place dans vos 15 propositions au gouvernement du Cercle des économistes. Ursula von der Leyen, qui était l'invitée des rencontres économiques d'ailleurs, a déclaré « L'Europe va sortir de la crise plus unie qu'avant. La nécessaire relance sera un nouveau chapitre dans notre histoire. » L'Europe est encore trop absente, Jean-Hervé Lanzi, dans ce dossier.
Vous avez la gentillesse de rappeler qu'elle était notre invitée, mais il y avait aussi Altmaier, qui est le ministre de l'économie allemand. Il y avait aussi le président du Conseil européen,
Charles Michel.
Donc il y avait quand même une espèce de prégnance du problème européen, et tout le monde a noté que même si c'est pas parfait, il y a eu un pas franchi dans la coopération entre les pays. Alors après, ça devient très très compliqué, parce que on rentre dans des sujets qui sont au-delà de ce qu'on va évoquer. Est-ce que la zone euro et l'Europe fonctionnera toujours avec une sorte de duopole de pouvoir, avec ces deux pays qui se considèrent comme en réalité porteurs d'intérêt général? C'est compliqué à imaginer, c'est compliqué à décider, mais j'allais dire que ça, c'est peut-être le sujet de l'année prochaine.
Eh bien voilà, on a déjà là un scoop pour le coup. Merci infiniment. Donc je renvoie nos auditrices et auditeurs dans 2 minutes précisément sur le site internet France Info, franceinfo.fr, pour découvrir cette feuille de route que le Cercle des économistes propose au nouveau gouvernement de Jean Castex. Le gouvernement qui sera annoncé demain matin, a confirmé l'Élysée dans l'après-midi. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine. C'est la fin des débats de l'écho. Merci Patrick Artus, merci Jean-Hervé Lorenzi. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Et tout de suite, l'actualité continue sur France Info.
Et merci à vous, Emmanuel Cuny, pour les débats de l'écho, à retrouver évidemment en podcast sur franceinfo.fr.